C'était bien sûr Jane Birkin. Alors, l'autre chose que nous aurons souvent aussi dans Remue Ménage, Onde Femme, que vous pouvez écouter, je vous le rappelle, sur Radio Zone 93.8, si jamais vous êtes par chance une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, eh bien, ce sont des nouvelles de groupes de femmes actives, soit à Genève, soit en Suisse, soit de par le monde. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une petite carte postale et une lettre à vous faire partager. Une carte postale qui... La carte postale elle-même, c'est Saint-Pétersbourg, mais celle qui me l'envoie me dit, en fait, je te l'envoie depuis Odessa. Et qui est-ce qui m'envoie cette carte? Eh bien, c'est Isabelle Écline de Genève, qui est montée avec deux autres femmes sur le train de la paix organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Ce train qui fait l'énorme voyage depuis Helsinki jusqu'à Pékin, Beijing, en passant par de nombreuses villes comme Saint-Pétersbourg, comme Kiev, Bucarest, Sofia, Istanbul, Odessa, Almaty et Urumqi en Mongolie, pour arriver donc bien sûr à Pékin, à la conférence internationale sur les femmes et surtout au forum des organisations non gouvernementales. Ce train a quitté Helsinki au début du mois d'août et puis il est arrivé hier soir à Pékin. Peut-être avez-vous vu quelques images à la télévision. Eh bien, moi, avant-hier, je recevais une carte postale qui était partie le 18 août, donc ça fait déjà un moment. Et c'est quand même assez incroyable de recevoir cette carte postale qui m'envoie les meilleurs baisers d'Isabelle, qui m'a promis que lorsqu'elle reviendrait de Pékin, eh bien, elle viendrait en compagnie de ses deux amis me raconter tout ce qu'elles auront vu. Elles sont dans ce train pour faire un film qui raconte ce qui se passe dans le train, et je vais tout de suite vous préciser ce qui se passe dans ce train. Et puis, pour nous raconter ce qu'elles auront vécu à Pékin. Donc un regard bien particulier de ces trois femmes sur la conférence internationale de l'ONU, du point de vue donc des femmes. Et alors à côté des quelques mots d'Isabelle, eh bien tout à coup plein de signatures de femmes que je ne connais pas, mais qui doivent être avec elle dans le train, du genre « J'espère, j'aurais bien aimé pouvoir te rencontrer », tout ça c'est en anglais, je vous traduis, d'Hélène qui fait un petit dessin adorable à côté, ou bien « Un bonjour de la Nouvelle-Zélande », et ça c'est Mégare, « Que de regret de ne pas avoir le privilège de vous voir et de vous partager », ça c'est quelqu'un, Mercedes, qui vient d'Espagne, et puis... C'est Pia aussi que nous avions rencontré un certain 8 mars à Genève, qui a la chance d'avoir son anniversaire le 8 mars. Il y en a d'autres qui ont aussi son anniversaire et qui m'envoient aussi ses meilleurs messages. Et puis c'est Annie de Lemental et puis c'est Metori Johnson de ne sais pas où qui me fait un charmant petit dessin avec un grand sourire. Bref, tout à coup des nouvelles de plein de femmes qui voyagent dans ce train. Et puis dans un courrier qui arrive juste après, eh bien des photocopies qui ont été envoyées par justement la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui raconte ce qui s'est passé dans ce train pour la paix. Alors, je vous en donne quelques extraits. Ces lettres racontent les haltes à Saint-Pétersbourg, les haltes à Kiev et puis une prise de position à partir des discussions qui ont eu lieu dans le train des femmes sur le rôle que pourrait jouer la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté dans la guerre de Bosnie. Alors, rappelons peut-être que la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté a organisé ce train qui fait ce voyage absolument unique depuis Helsinki jusqu'à Pékin. Une route qui n'a en fait jamais été vraiment faite de façon organisée comme ça par des femmes. Dans le train, il y a 233 femmes, quelques hommes. On a accepté des hommes aussi, qui voyagent donc d'abord à Saint-Pétersbourg, ensuite Kiev, Bucarest, Sofia, Istanbul, Odessa, Almaty et Urumqi en Mongolie pour arriver à Pékin pour la conférence, donc c'est fait aujourd'hui. Et les participants donc sont partis le 7 août à 6h du matin pour arriver ensuite à Saint-Pétersbourg. Donc, nouvelle de Saint-Pétersbourg. L'idée est que chaque fois que le train s'arrête, eh bien, les participantes du voyage rencontrent des groupes de femmes dans la ville où l'on s'arrête. Et puis, en cours de route, pendant le chemin, eh bien, il y a des discussions, des ateliers où les femmes discutent entre elles. Alors, quelques nouvelles de ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Les différents groupes avaient organisé à Saint-Pétersbourg donc des discussions sur la paix et sur des thèmes concernant les femmes qui ont eu lieu le jour suivant de l'arrivée, sur des thèmes comme la situation des femmes en Russie après la perestroïka, les femmes et le désarmement et la paix, les femmes et le désir d'entreprendre. Et les femmes russes ont mis en évidence très précisément l'importance du désarmement et du besoin absolu d'abolir les armements nucléaires. Une protestation ferme a été faite contre le gouvernement français de continuer ses tests nucléaires dans le Pacifique. Et à la fois les femmes de Saint-Pétersbourg et celles, les participantes au train de la paix, ont souligné la nécessité absolue d'un traité qui abolirait les tests nucléaires et ont soutenu un élargissement du boycott des biens français jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur sa décision d'entreprendre, de continuer les tests dans le Pacifique. Les participantes des deux côtés, si je puis dire, c'est-à-dire celle du train et celle de Saint-Pétersbourg, ont condamné la cruauté des bombardements et la destruction qui a eu lieu en Tchétchénie et ont demandé pour une halte immédiate des activités militaires et la continuation des parlers de paix. Et puis, on a pu entendre la prise de position des femmes de Tchétchénie et des mères des soldats de Saint-Pétersbourg à propos des violations des droits de l'être humain dans l'armée russe elle-même. La discussion à propos de la Tchétchénie a suscité à un moment donné un conflit sur la justification de l'action initiale, à savoir est-ce que, oui ou non, la République tchétchène avait le droit légal de se séparer de la Russie. Mais bref, cela a donné l'occasion d'exprimer divers points de vue. Et puis, les femmes du train, dans une délégation, ont été invitées par le maire de Saint-Pétersbourg et ont pu faire une déclaration concernant, entre autres, aussi le statut des femmes de Saint-Pétersbourg. Et la délégation de Saint-Pétersbourg a pu exprimer la difficulté que rencontrent de plus en plus de femmes du point de vue économique, et en particulier les femmes âgées qui souffrent, semble-t-il, très fréquemment de malnutrition. La situation se détériore de plus en plus, surtout avec l'augmentation des femmes au chômage. Voilà, alors tel était ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg et le train est reparti ensuite pour Kiev. À Kiev, donc, deuxième arrêt du train pour la paix de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et bien, se rendant à Pékin, je vous le rappelle, pour la fameuse conférence internationale sur les femmes, et bien, à Kiev, les participantes au train ont rencontré le Parlement ukrainien et ont discuté de divers thèmes qui tous étaient liés soit à la démocratie, soit à l'environnement, soit au désarmement nucléaire. Et ils ont parlé avec différents membres du Parlement, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Santé et des représentants du gouvernement ukrainien. Les thèmes abordés ont été celui, par exemple, de l'éducation à la paix, de la possibilité pour les femmes d'entreprendre ce qu'elles souhaitaient, de l'environnement, discussions qui étaient organisées dans divers ateliers, et bien sûr les effets catastrophiques de l'accident de Tchernobyl, de la centrale nucléaire de Tchernobyl sur l'environnement et sur la santé des gens et sur la capacité de reproduction des femmes a été largement discuté et surtout a montré la nécessité d'une halte immédiate des constructions de centrales nucléaires et de trouver une alternative une alternative sûre et respectant l'environnement pour la production d'énergie. Et la menace de l'utilisation militaire des armes nucléaires a été discutée, entre autres au moment de la commémoration, le 9 août, de la bombe qui avait été lancée par les Américains sur Nagasaki au Japon. Normalement, légalement, l'Ukraine est censée être un État sans armes nucléaires, mais en fait, elle n'a aucun moyen pour démanteler les têtes de gives de missiles qui sont sur son territoire. Parce qu'il faudrait une aide financière et une assistance technique très importante, en particulier de l'étranger, pour arriver, et apparemment on attend cela surtout des États-Unis, pour arriver à démanteler ces missiles. Et entre autres, les USA ont été fortement critiqués par les femmes parce qu'ils n'ont pas réalisé les engagements qu'ils avaient pris à ce sujet. Une délégation du train a rencontré des représentants du ministre de la Défense, toujours dans le même sens, et un représentant du ministère des Affaires étrangères. On a discuté de la réduction du budget militaire, c'était au centre des discussions. Et les femmes ont exigé qu'il y ait une réduction d'en tout cas 5% par année du budget militaire. Et un des engagements, semble-t-il que l'association pour la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté va demander officiellement à Pékin, lors de la rédaction de la plateforme pour les actions concrètes, que les gouvernements s'engagent à réduire leur budget militaire chaque année de 5%. Alors, un des généraux ukrainiens a fait remarquer qu'il y avait déjà eu une diminution des forces armées de 700 000 personnes en 1992, que c'était tombé à 150 000 en 1995, et donc on pouvait considérer que c'était déjà une baisse importante des forces militaires, mais qu'ils avaient en tout cas encore planifié la réduction des forces armées. Et il ressoulignait encore lui aussi l'importance d'une aide internationale pour arriver à la conversion des armes de la production nucléaire. Et puis, dans une conférence un peu plus élargie avec des représentants du gouvernement ukrainien, eh bien, le ministère, un des députés au ministère des Affaires étrangères a offert le soutien du gouvernement ukrainien comme médiateur neutre dans la guerre en Bosnie. Alors, bien sûr, la Ligue internationale des femmes pour la liberté et la paix a accueilli chaleureusement cette initiative, puisqu'elle soutiendra n'importe quelle solution politique à ce conflit, et surtout a mis en évidence le trafic tout à fait, évidemment, non officiel d'armes pour toutes les parties du conflit, et a demandé, bien sûr, qu'il celui-ci cesse. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Kiev dans le deuxième arrêt du train pour la paix organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. À Sofia, en Bulgarie, eh bien, les femmes ont discuté de la guerre en Bosnie. Et les 233 participantes du train ont appris d'abord beaucoup de choses à propos des effets de la guerre sur l'ex-Yougoslavie, sur la Bulgarie. Comme en Roumanie, l'embargo du commerce a eu des effets très significatifs, négatifs sur l'économie de la Bulgarie et de la Roumanie, qui, bien sûr, s'ajoute aux problèmes qui ont été causés par la transition entre le passage d'une économie communiste à une économie de marché. Et les représentantes de la Bulgarie, avec un fort support des participantes au train de la paix, ont malgré tout continué à défendre l'embargo des armes, mais se sont malgré tout opposées à un embargo commercial contre la Serbie. Depuis le début de l'embargo, tous les objets qui sont nécessaires à une vie normale ont petit à petit disparu. Et pour les femmes, cela signifie qu'elles doivent passer un temps immense à aller de magasin en magasin pour trouver la nourriture de base et puis ce qui est nécessaire à la vie de la maison, de la famille. Et c'est une telle perte de temps, a dit une des femmes bulgares qui était là, que ça fait penser que vraiment c'est une sorte de politique intentionnelle du gouvernement, c'est de garder les gens occupés à survivre et comme ça ils ne s'occupent pas de politique. L'embargo commercial, selon l'avis des femmes bulgares, n'empêche pas du tout Milosevic de faire ce qu'il veut faire, mais au contraire, cela blesse les gens du peuple. Et en fait, Milosevic utilise l'embargo comme mise en évidence que l'on hait la Serbie pour encore exacerber le nationalisme. Concernant une sorte de survol historique de la guerre, qui a été présentée par une députée bulgare, et deux femmes serbes de Belgrade ont discuté avec les autres femmes d'actions possibles pour protester, d'actions de solidarité. Et démarrée à Belgrade en 1991, l'action Femmes en Noir, on connaît cela aussi en Suisse, a manifesté donc chaque semaine, une fois par jour, pour protester contre la guerre et pour donner un soutien aux réfugiés et donner du travail aux organisations de femmes dans toutes les républiques. Alors voilà un petit peu en résumé les discussions qui ont eu lieu. À propos de la guerre de Bosnie, c'est très résumé, il faudrait que je vous en raconte un petit peu plus. Nous ferons cela beaucoup mieux en direct avec Isabelle lorsqu'elle reviendra de Pékin et nous racontera tout ce qui s'est passé. Por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Chaque année au mois de septembre, eh bien, c'est à Genève le festival de la Bâtille. Et chaque année, nous avons envie de vous en parler. Je ne serai pas la seule à vous parler du festival de la Bâtille. Marjolaine, dans ses coups de cœur à 19h, vous parlera aussi de ses découvertes. Cette semaine, par exemple, elle a été voir le roi Lear et a rencontré les comédiennes magnifiques qui participent à ce spectacle de l'équipe du Garage qui, d'habitude, nous montre toujours des choses magnifiques. Et elle vous en parlera tout à l'heure puisqu'elle les a rencontrées. Malheureusement, cette année, j'ai remarqué que dans le programme de la Bâtille, qui est toujours aussi riche et magnifique, que l'on parle théâtre, danse, musique, poésie, sonore, et etc., etc., eh bien, malheureusement, les très belles choses dont j'avais envie de vous parler et les rencontres avec les femmes que j'avais envie de faire, eh bien, malheureusement, elles ont toujours lieu après, elles pourraient avoir lieu seulement après notre émission. C'est un petit peu tragique comme ça, mais des fois, ça se passe. Parce que on a une émission une fois par semaine, c'est le mercredi, et puis... Voilà, et bien certains spectacles ne sont montrés qu'une ou deux fois en fin de semaine, donc il est trop tard d'en parler dans notre émission. Je ne sais pas si vraiment ça va m'arrêter de vous en parler, hein. Je rencontrerai peut-être certainement les personnes quand même, c'est l'occasion hein, de faire des rencontres et si une autre fois les artistes en question repassent les environs, vous irez les voir. Mais en l'occurrence, on peut difficilement faire des annonces qui serviraient à aller voir les spectacles, puisqu'ils partent chaque fois, ça passe trop tard. Ou bien, alors on aimerait bien voir avant de vous en parler, parce que c'est aussi ça le problème, et puis on ne peut pas. Alors, par exemple, jeudi 31 août, le soir, à l'usine, on annonce trois nanas d'enfer, les Babes in Toyland, les bébé au pays des jouets. Eh bien, ce sont trois femmes. Trois femmes qui viennent des États-Unis et qui jouent du rock, semble-t-il, de façon incroyable et qui n'hésitent pas, à grands coups de hurlements et de griffes de guitare, à exprimer un rock pur et dur. Et pas du tout complaisé dans ce monde qui est habituellement et éminemment masculin, celui du rock, bien sûr. Et bon, ben, on aurait bien aimé pouvoir leur poser une petite question, entre autres liée à cette phrase magnifique qui conclut leur présentation dans le programme de la Bâtille. On dit d'elle, c'est l'exemple rare d'un groupe féminin costaud qui n'a pas fait du féminisme un cheval de bataille. Vous pensez bien que mon sang n'a fait qu'un tour et que j'aimerais bien savoir ce qu'elles pensent de cette petite phrase qui les présente. Est-ce que c'est de leur cru ou est-ce que c'est du cru de la rédactrice du programme de la Bâtille ? Alors, jeudi 31 août, je vous l'annonce, c'est à 22h30, quelque chose comme ça, à l'usine, après un groupe qui vient de Bosnie, aussi d'enfer, semble-t-il. Excusez-moi le jeu de mots douteux. Mais... vous pourrez donc les écouter, mais nous, on ne pourra pas les écouter avant pour vous en parler. Donc, peut-être une interview sur le tas à la fin du concert pour vous le présenter mercredi dans une semaine. Et puis, autre femme qui a attiré notre attention, autre spectacle, eh bien, c'est le jeudi 7 septembre, c'est la voix des femmes d'Israël qui chantent les Juifs séfarades et les Juifs ashkénazes. C'est Esther Lamandier, bien connue déjà, et Aura Sittner qui chante et qui raconte. Eh bien, ces deux femmes se présenteront à l'Alhambra à 20h30, donc je répète le jeudi 7 septembre. Alors là, encore une fois de plus, elles chantent qu'une seule fois et vous en parlez le mercredi. Bon, bien sûr, on peut vous annoncer le concert. J'aurais pu vous passer un disque, mais quand malheureusement, on dépend d'une discothèque où d'autres gens viennent piocher, eh bien, il n'y avait plus de disque d'Esther Lamandier et il n'y en avait pas d'Aura Sittner. Donc, désolé, je ne peux pas vous faire écouter la voix magnifique d'Esther Lamandier. Alors, allez la découvrir à l'Alhambra le jeudi 7 septembre, 20h30. Mais peut-être aussi une rencontre pour le mercredi 13. Et puis toujours des femmes, par exemple, parmi les nombreuses danseuses que vous pourrez découvrir, il y a encore pour deux soirs la compagnie de Wanda Golonka, RCA, qui se présente au Lignon. Il y a une Tessinoise ensuite, plus tard. Bref, il y a beaucoup de compagnies de danse avec des femmes à découvrir. Et puis parfois des solos comme celui d'Olga Meza que vous pouvez découvrir à 19h au Satori. Olga Meza, elle présentera son travail le jeudi 7, 8 et 9. Le jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, au Satori à 19h. Il faut aussi réserver pour tous ces spectacles, soit qu'il vous faut réserver. Alors vous pouvez appeler le numéro de téléphone, parce qu'il suffit de téléphoner, c'est simple comme bonjour, entre 13h30 et 18h30, au 022, si vous appelez depuis l'extérieur de Genève, 738 40 32, je répète 738 40 32, c'est le service de réservation par téléphone de la Bâtie, donc 13h30, 18h30. Et puis encore une femme magnifique, c'est Sappho qui s'attaque à chanter une magnifique partition qui autrefois avait été créée par Oum Kalsoum. On le sait, Sappho a des origines marocaines, de juifs marocaines. Elle a eu envie de s'attaquer à ce magnifique répertoire. Elle a rencontré toutes sortes de critiques de part et d'autre, les Arabes lui reprochant de s'attaquer à un monstre divin, et les Juifs de s'identifier aux Arabes, et ainsi de suite. Elle en parle très très bien. Si jamais nous n'avons pas l'occasion de la rencontrer, là je crois qu'elle a c'est un petit peu râpé, parce qu'elle a l'air très mobilisée par toute la presse, eh bien je me contenterai, hélas, de vous lire des extraits d'autres interviews que j'ai trouvées dans la presse écrite. Tout à l'heure, un extrait avec Oum Kalsoum. Ça, ce sera au Forum Mérin de Mérin. C'est une nouvelle salle de spectacle et c'est le samedi 9 septembre. Et puis, il y a toute une action de soutien à la guerre contre la Yougoslavie, soutien amitié avec Sarajevo, qu'entreprend le Festival de la Bâtie. Les artistes se mobilisent encore une fois pour défendre le droit à s'exprimer, même pendant la guerre. Et toutes sortes de choses vous sont proposées, et par exemple des films qui évoquent la situation de femmes. Par exemple, le journal de Mirsada, qui est une femme journaliste. Et c'est un film qui a été réalisé par un homme sur le travail de cette femme, qui bien sûr a dû arrêter son travail officiel à un moment donné, mais qui a continué à faire d'autres reportages pendant la guerre. Et puis, il y a d'autres films qui évoquent l'histoire d'une jeune femme, par exemple, qui s'appelle « Lettre à Srebrenica », et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a dû quitter la Bosnie, la petite ville de Srebrenica où elle vivait. Et au travers d'un journal vidéo cette jeune femme envoie à sa meilleure amie qui, elle, est restée en Bosnie, eh bien, on voit la lutte de la jeune fille pour son droit à un avenir et ses rapports conflictuels avec son père, qui admet difficilement que sa fille est en train de s'émanciper. Voilà. Alors, vous pouvez aussi aller écouter Radio Oblomov, c'est Claude Thébert qui lit tous les jours des témoignages de gens qui vivent à Sarajevo depuis 1992. Ces témoignages de la vie de tous les jours autour du manque de nourriture, puisque l'on mange des fois plus que du riz. Et c'est la vie quotidienne, des nouvelles informations quotidiennes, c'est tous les jours à 12h au café Oblomov à Saint-Gervais.